Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette libre antenne du samedi soir. Ce moment particulier et intime où Europe 1 vous donne la parole pendant 2 heures. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et pour la prendre cette parole, vous m'appelez au 39 21 et je vais vous faire une petite place à côté de moi dans ce studio. Venez me parler de vos soucis en famille ou au travail, de vos histoires d'amour ou de rupture, venez partager ce qui vous préoccupe et vous touche. Parmi les sujets qu'on n'a pas abordés depuis longtemps, il y a par exemple les grossesses multiples, la vie avec des jumeaux, des triplés ou pourquoi pas plus. Venez raconter ça aussi ce soir, si vous en avez envie. Et si vous avez envie de participer par SMS, de réagir à ce qui se dit, d'apporter du soutien, vous tapez le 739 21 suivi du mot nuit et de votre message. Il y a bien plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison, dit Thomas d'Ansembourg. Alors gardons à l'esprit que le but d'un dialogue n'est pas de chercher à avoir raison, et de chercher à se comprendre pour mieux comprendre l'autre. Parce que quand on commence à comprendre pourquoi l'autre agit comme il agit, alors on voit les choses autrement et on les gère plus facilement. Toute l'équipe de la Libre Antenne du week-end est là pour vous ce soir. Cindy et Nicolas au standard, Julien à la réalisation. Alors, soyez les bienvenus.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et celle qui ouvre le bal ce soir, c'est Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir Sabine, merci de me recevoir et de m'écouter.
Avec plaisir Elisabeth, je crois qu'on se connaît. Hein.
Oui, on se connaît. J'ai le cancer depuis, maintenant j'entame ma 3e année.
Oui.
Mais il s'est produit un événement que pour l'instant je n'arrive pas à gérer. J'ai été hospitalisée en novembre... pendant 3 semaines, et bon, mon anniversaire a eu lieu à l'hôpital le 13 novembre, et le soir même, j'ai mon gendre qui a été hospitalisé d'urgence dans la même clinique où je me trouvais. Mais personne n'a rien dit, mais dimanche soir, j'ai su que mon gendre était dans cette clinique.
Comment vous l'avez su ?
Par mon mari.
Ah oui, donc on vous l'a dit quand même.
Oui.
Oui.
À un moment donné, il fallait bien qu'il me le dise. Hein.
Mm-hmm.
Et du coup, il a été hospitalisé et lui, il a un cancer foudroyant du pancréas.
Voilà. C'est un monsieur qui a quel âge ?
La cinquantaine.
Oui, donc très jeune encore.
Et le problème... Oui.
J'imagine que ça vous a beaucoup touché, beaucoup affecté.
Ah mais j'ai perdu les pédales. Bon, lui, il est en fin de vie, là.
Il n'y a aucune chance, c'est ce que lui ont dit les médecins ?
Non, non. Il a vu le plus grand professeur. Il est en fin de vie, il ne mange plus. Il est sous pompe à morphine à la maison. Bon, là, il est rentré, il est en hospitalisation à domicile. Mais bon, mon mari, ma plus jeune fille, ils font un relais pour qu'il ne soit pas seul parce que ma fille qui doit travailler quand même.
Vous voulez dire celle qui est son épouse ?
Oui.
Oui.
Et elle veut travailler. Il faut qu'elle travaille parce qu'elle va nous perdre les pédales aussi.
Oui, ce que j'allais vous dire, elle peut demander un congé spécial, mais j'imagine que si elle vous dit qu'elle a besoin de travailler, c'est qu'elle doit s'accrocher à quelque chose, quoi.
Oui, elle a besoin. Bon, on essaye de faire un roulement tous les jours. Bon, on ne sait pas s'il va rester à la maison. Bon, moi, je serai réhospitalisée aussi. Et je me dis, on va se retrouver tous les deux dans le même service. Mais lui, en fin de vie, et moi, moi je ne sais pas, parce que moi, mon cancer, il évolue.
Alors, racontez-moi où vous en êtes, Elisabeth. Quand vous m'avez appelée, vous en étiez où à l'époque, quand on s'était parlé ?
Ben, j'avais été opérée 4 fois du côlon. J'ai 2 stomies. Mmh. Et là, je fais de la radiothérapie, chimiothérapie, et ben, ça ne fonctionne pas.
Chimio et radio ensemble ?
Oui. Ah. Tous les jours.
Oui, la radio, c'est tous les jours 10 minutes, c'est ça ?
Oui, mais la chimio aussi tous les jours.
Et la chimio aussi tous les jours, hein, d'accord.
Oui, oui.
Donc ils y vont très très fort, là, ils attaquent de tous les côtés.
Oui.
Ouais.
Et mais bon, pour mon moral, j'ai le moral, je suis une battante, donc j'essaye de surpasser, voilà... De temps en temps, je pleure un peu, mais voilà, je prends sur moi beaucoup. Mais le problème, c'est que mon gendre, avec ma fille, bon, il le sait qu'il est en fin de vie. Hein.
Oui.
Il est un peu agressif. Bon, et c'est pas son tempérament, c'était pas du tout son tempérament.
J'imagine qu'il a peur.
Oui, il a peur.
Bien sûr. Et votre fille, elle passe par quel stade là, en ce moment ?
Bah, écoutez, on essaye de la soutenir comme on peut. Mm. Pour l'instant, bon, elle est au courant hein, qu'il est en fin de vie. Elle le voit. Il a perdu 30 kilos. C'est en 2 mois, hein, depuis le 13 novembre, ça a commencé.
C'est terrible quand c'est foudroyant comme ça.
Oui.
Et ce qui est terrible pour vous, c'est que ça vous met en face de quelque chose que vous n'avez pas besoin de voir en ce moment, quoi.
Oui, voilà. Mais je l'ai vu, d'abord, je ne voulais pas le voir, mon gendre, parce que je me suis dit, je vais être choquée.
Oui.
Et lundi, cette semaine, on avait rendez-vous en même temps en chimiothérapie. Donc, je suis allée le voir. J'ai pris sur moi.
Oui.
Et je me suis dit, je ne peux pas faire ça. Parce qu'on s'entend, on s'aime tous. Et je me suis dit, il faut que j'aille le voir. Je vais le prendre sur moi. Et je vais le voir.
Mais vous aviez de bons rapports avant la maladie, tous les deux.
Comment ?
Vous aviez de bons rapports, tous les deux, avant la maladie.
Oui, oui, très oui. Bon rapport.
Donc, d'accord, c'est important, ça aussi.
On est une famille très fusionnelle.
D'accord.
Et du coup, je suis allée le voir. Il a eu un sourire, mais il m'a tenu la main. J'ai vraiment pris sur moi hein, pour ne pas pleurer devant lui, pour le motiver. Et alors, il m'a encore dit, on se bat ensemble. J'ai dit oui. On va se battre ensemble. Mais lui, il le sait qu'il est en fin de vie. Moi, j'essaye encore de me battre. Maintenant, il y a un autre souci. Il a un fils de 15 ans.
Qui est votre petit-fils ou pas du tout ?
Non, c'est pas mon petit-fils. Mais ma fille l'a élevé comme... je le considère comme mon petit-fils. Hein.
D'accord.
Mais il a 15 ans. Et il avait de très bons rapports avec son papa. Et maintenant, il ne lui parle plus. Il est chez eux, mais il ne parle pas à son père.
Quand vous dites maintenant, c'est depuis la maladie ?
Oui.
Mais là aussi, je pense qu'il doit être terrorisé, ce gamin.
Et comment on peut faire pour...
Est-ce que sa maman arrive à lui parler ou c'est trop difficile pour elle ? Auquel cas, il faudrait l'envoyer chez un pédopsie. Parce que là,
sa maman ne s'occupe pas réellement de lui. C'est ma fille qui s'occupe beaucoup de lui.
C'est-à-dire qu'il la voit quand même, sa mère biologique ?
Oui.
Il la voit à quel rythme ?
Je veux dire, tous les 15 jours.
Ah oui, d'accord. Donc il est quand même beaucoup plus avec sa belle-mère qui est votre fille.
Oui, voilà.
Mais est-ce qu'elle, elle peut, est-ce qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qui se passe ? Parce qu'elle est quand même, j'imagine, aussi extrêmement bouleversée. Et qu'elle n'est peut-être pas la mieux placée pour rassurer cet enfant, cet ado.
Oui, voilà, c'est ce que je me suis dit. Parce que je me suis déjà dit, est-ce que, parce qu'avec moi, il parle beaucoup. Mais on ne s'est pas encore revu depuis que son papa est malade. On n'a pas eu l'occasion de se voir.
Donc vous dites qu'on parle beaucoup, mais il ne vous a jamais parlé de son père.
Non, pour l'instant, on ne s'est pas vu depuis que son père est malade.
Je pense que ça serait bien que quelqu'un lui propose de lui demander s'il a envie d'en parler, s'il a besoin d'en parler. Pas avec des proches, parce que c'est très compliqué, surtout à 15 ans. Mais avec quelqu'un dont c'est le métier, de l'écouter. Il ne faut pas le laisser tout seul dans cette épreuve.
Oui. Bon, ma fille l'entoure, lui parle, mais avec son papa, c'est... Voilà, il n'arrive pas.
Je pense que oui, effectivement, il a pas les codes, il n'a pas le mode d'emploi pour aborder un monsieur qui est en fin de vie, qui se trouve être son papa en plus.
Oui.
Et la femme avec qui il vit, qui n'est pas sa mère, donc c'est vrai que ce n'est pas simple non plus comme situation. Même s'ils s'entendent bien, c'est pas sa maman, donc les sentiments ne sont pas les mêmes.
Oui, mais sa maman ne s'est jamais vraiment réellement occupée de lui.
Oui, j'ai bien compris, mais là, la situation est quand même extrêmement douloureuse pour tout le monde.
Oui.
Mais pour lui aussi, et peut-être pour lui plus, parce qu'à 15 ans, on ne sait pas qu'on est complètement démuni par rapport à ça.
Oui, c'est là qu'on a le plus besoin de son papa, quoi. Surtout pour un garçon. Pour une fille aussi, mais je trouve...
Et ça serait très important que quelqu'un lui explique qu'il faut qu'il parle à son père, sinon il va le regretter toute sa vie.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qui lui pend au nez. S'il n'arrive pas à renouer un contact avec son papa avant son départ, ça va être très compliqué à gérer après. Et pour ça, il faut qu'il soit accompagné, et vite, par une professionnelle.
Ah, d'accord.
Vraiment. Je pense que peut-être vous pouvez passer par votre fille pour lui faire passer le message.
Oui, ça je ferai, de toute manière.
Qu'elle lui trouve rapidement un ou une psy ou pédopsie. Je ne sais pas, 15 ans, c'est un peu entre les deux, donc je ne sais pas si c'est encore des pédopsies. Probablement, oui, il n'est pas majeur. Donc,
Oui.
Mais quelqu'un qui peut l'accompagner sur ce qui lui arrive pour qu'il puisse... exprimer à la fois sa tristesse, sa colère et tout ce qu'il doit ressentir et qui doit être complètement bloqué, verrouillé en lui. Et la peur aussi.
Oui,
voilà. La peur d'aller voir son papa parce qu'il doit se dire « mais qu'est-ce que je vais lui dire ?» Et qu'il comprenne vraiment à quel point c'est essentiel d'aller renouer avec son papa maintenant. Parce qu'après, il sera trop tard.
Oui.
Mais pour ça, il a besoin que quelqu'un lui prenne la main et lui explique comment ça fonctionne et l'aide. Et ça me paraît compliqué que ce soit quelqu'un de la famille, vous voyez, parce que vous êtes tous en train de souffrir de tout ça. Et vous, Elisabeth, je ne sais même pas où vous trouvez encore la force de vous battre pour les autres, en plus. C'est incroyable.
Ben, vous savez, on est tellement fusionnels que je me fais plus de soucis pour lui que pour moi.
Oui, c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez fait un pas en arrière et que c'était lui le plus important.
Oui.
Ce qui n'est pas
par
le cas.
Rapport à ma fille.
Ce n'est pas le cas. C'est peut-être plus urgent parce qu'effectivement, il est malheureusement dans un stade très avancé. Mais ce qui vous arrive est important aussi et vous êtes importante aussi.
Il ne
faut pas lâcher l'affaire. Hein. Vous ne lâchez pas l'affaire pour vous.
Hein. Non, je ne lâche pas l'affaire. Mais bon, j'ai une très longue discussion avec mon oncologue. Parce que j'ai quand même... Parce que là, je fais de la radiothérapie, chimio. Et après, encore une fois, une grande opération. Et du coup, j'ai demandé à mon oncologue si vraiment ça sert encore que je me batte comme ça. Alors, il m'a dit que ça sera la dernière tentation parce qu'après, on ne saura pas, quoi.
Ils ne vous ont pas proposé l'immunothérapie ?
Non.
Non. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec
vous. Non, le problème, c'est que j'ai une maladie génétique. Je vous en avais déjà parlé. Et cette maladie génétique adore le cancer.
Ah. Donc le terrain, malheureusement, est propice à ça, quoi.
Oui, voilà. Et plus, plus j'avance, plus mes marqueurs ils montent, quoi. Et là, je commence à m'épuiser. Enfin, je suis épuisée. De toute manière, je suis épuisée. Disons, je me fais plus de soucis pour pour ma fille déjà, pour le gamin. Voilà.
Oui. Là, dans une situation comme ça, il va vraiment falloir vivre chaque jour l'un après l'autre.
C'est ce qu'on fait.
Parce que sinon, C'est une montagne à surmonter, évidemment.
C'est ce qu'on fait. On vit le jour.
Par priorité. Et là, où je vous rejoins, c'est que la priorité en ce moment, là, tout de suite, il me semble que c'est cet enfant, ce garçon.
Oui, c'est ça qui m'inquiète le plus aussi. C'est un très bon élève. Il est au lycée. Je me dis, est-ce qu'il va continuer à bien travailler, à réussir? Enfin, voilà. Je me pose plein de questions.
Est-ce que vous vous sentiriez la force, vous, de lui passer un coup de téléphone?
Au gamin?
Oui.
Oui.
Alors, vous pourriez lui dire ce qu'on s'est dit ce soir, vous savez, tout simplement. Parce que de votre bouche à vous, vous avez un rôle important dans sa vie.
Oui, oui.
Et donc, de votre bouche à vous, ça peut être important aussi de lui dire, voilà ce que vous m'avez dit, qu'il faut qu'il renoue avec son papa et que quoi qu'il arrive, il faut qu'il continue, que son père soit fier de lui. Il a besoin d'entendre ces mots-là et puis de comprendre qu'il est essentiel qu'il y ait un dialogue tout de suite qui s'instaure entre eux.
Mm-hmm.
Qu'il puisse parler.
Mm-hmm.
Et je pense D'accord. que ça peut venir de vous. Si vous vous sentez la force de le faire, sinon vous pouvez passer par votre
fille. Non, mais mais j'avais déjà, mais on n'a pas eu l'occasion là pendant les fêtes. On voulait pas y aller parce que on avait peur du Covid.
Mais bien sûr.
Et ben on prend tous nos précautions là. Mais je me suis dit, est-ce que je vais l'appeler? Mais bon, on a des très bons rapports. J'ai aussi des très bons rapports avec le gamin, quoi.
Alors justement, profitez-en. Vous pouvez être importante pour lui.
Oui.
Parlez-lui sincèrement comme vous l'avez fait avec moi ce soir et dites-lui à quel point c'est important, pour lui et pour son père.
Oui, d'accord.
Parce que là, il est probablement en train de paniquer tout seul dans sa tête et de ne pas savoir quoi faire, quoi dire.
Oui.
Le deuil est déjà tellement compliqué pour nous, les grands, les adultes. Alors pour les jeunes, les ados, les enfants, ça l'est encore 10 fois plus.
Ah bah oui, oui, je sais.
On ne nous apprend jamais comment réagir face à ça. Malheureusement.
C'est pour ça que je me suis permise de vous rappeler.
Vous avez bien fait, Elisabeth. Et puis ça fait plaisir de voir que vous êtes là et que vous vous battez.
Oui, je me bats.
Même si j'entends que c'est à quel point c'est difficile, mais vous avez encore cette force, cette énergie-là en vous. Et ça, c'est beau.
Oui, ben, je continue toujours. Là, j'ai fait une vingtaine de bonnets pour des bérets, des bonnets... Voilà, alors je cuisine, pâtisserie, voilà, je fais tout ça encore. Hein. Mon mari me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, si je reste couchée, c'est pas la peine.
Oui, je comprends. Vous en faites quoi de ces bérets, de ces bonnets?
Bah écoutez, je les donne à droite, à gauche, je les offre.
C'est adorable, ça.
Bon, j'aime la couture, le crochet, tous ces trucs-là, voilà. Et je m'amuse, ça me fait passer le temps l'après-midi. Alors je me mets la radio, mm-hmm. où j'écoute beaucoup de musique zen aussi en ce moment.
Oui, c'est important aussi ça.
Et je fais du crochet, je fais plein de bonnets. Là. Ma cousine, elle en a récupéré 5 ou 6, je crois. Et elle les donne aussi à droite, à gauche.
C'est sympa. Et je comprends, vous savez que c'est très thérapeutique ce que vous faites. Au lieu de rester dans son lit à ruminer, faire des choses pour les autres, ça occupe l'esprit.
Oui.
Et ça aide, ça nous aide aussi nous-mêmes.
Ben oui, exactement.
Et votre mari, il vous soutient? C'est quelqu'un de solide?
Oui, enfin ouais. Mon mari, là, il est vraiment perdu.
Ah oui.
Là, quand je serai hospitalisée, comme je serai suivie psychologiquement là, à l'hôpital, j'aimerais qu'il assiste, même s'il ne veut pas. Mais parce que quand il a appris pour son gendre, il s'est mis à pleurer. Il a dit, toi, tu es déjà malade. Maintenant, il y a lui qui est malade.
Ça fait beaucoup.
Oui, ça fait beaucoup.
Et vous aimeriez qu'il assiste aux séances avec la psy?
Non, pas avec le petit, parce que... Bon,
avec la psy.
Oui.
Et oui. Et pourquoi vous aimeriez qu'il soit là pour être aidé lui aussi?
Oui, parce que même s'il me dit qu'il n'en a pas besoin, mais j'ai l'impression qu'il en a besoin. Je le vois en ce moment. Vous savez, il est stressé. Dimanche, malheureusement, je suis tombée. Et il n'était pas à la maison. Il s'est promené. On a un petit chien, un teckel. Et il a fait une grande balade avec lui. Et malheureusement, j'ai fait un malaise. J'étais par terre pendant trois quarts d'heure. Quand il est rentré, il m'a vu par terre. Bon, c'est pas son habitude, mais il m'a crié dessus. Et moi, j'ai paniqué. J'ai dit, j'ai rien cassé, je te promets. Alors, il me fait, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit, je voulais juste prendre une casserole. Et j'ai eu un malaise. Et après, il s'est excusé.
Il a eu peur.
C'est la peur qui l'a fait réagir comme ça.
Bien sûr, c'est la peur. Et puis, je pense qu'il doit être, comme vous dites, il doit être extrêmement fragilisé en ce moment.
Ah ben oui.
Il a peur de quoi?
Oui, voilà.
Alors, vous avez raison pour la psy. Simplement, moi, je lui conseillerais plutôt d'aller voir quelqu'un de son côté, pas avec vous.
Parce ça, il ne fera pas, Sabine.
Ah là là, c'est dommage. Parce que vous comprenez qu'il ne peut pas, devant vous, dire sa peur, son mal-être et ses angoisses. C'est trop compliqué de dire ça devant vous. Et j'ai peur que s'il accepte de venir avec vous, ça soit juste pour rester assis dans un coin et qu'il ne parle pas.
Ou alors qu'elle le prenne à part.
Voilà, peut-être, oui. Avant ou après, mais en même temps, voilà. C'est autre chose, c'est une autre démarche. C'est pas pour lui à ce moment-là, c'est pour votre couple. Mais c'est compliqué pour lui de dire... Déjà, c'est compliqué pour un homme qui n'a pas envie spontanément d'aller voir un thérapeute, de parler. Mais en plus, si c'est pour parler de vous, devant vous, ça va être impossible pour lui.
Oui, d'accord.
Mais effectivement, c'est une bonne idée de proposer au thérapeute de lui demander si il ou elle accepterait de rencontrer votre mari avant ou après.
Oui.
Même de manière informelle, sans appeler ça une thérapie, en disant, voilà, monsieur, j'aimerais qu'on se parle un petit peu. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se voir un quart d'heure? Enfin, quelque chose de plus... qui peut ne pas l'effrayer, vous voyez?
Oui, voilà. Oui, oui.
Et vous, ça vous rassurait, j'ai l'impression aussi, hein, s'il était un peu pris en charge.
Oui, parce que en ce moment, c'est... Oh là là. C'est pas facile, hein.
Oui, ça fait beaucoup.
Mais bon, on va essayer. Bon, j'essaie de me battre. Bon, pour mon gendre, on sait. On s'attend tous les jours. Hein.
C'est pour ça que je pense que l'urgence, c'est vraiment que ce garçon renoue avec son père, très vite.
Oui, voilà, c'est très, ça. Très. Moi, c'est surtout le gamin qui me... Enfin, tout le monde m'inquiète, le gamin, ma fille, voilà.
Et pour l'instant,
J'aimerais leur aider, quoi.
Mais vous le faites, Elisabeth. Vous êtes en train de le faire. Mm-hmm. Et vous le faites très bien. Mm-hmm. Je pense que dès demain matin, vous allez pouvoir lui passer un petit coup de fil.
Oui.
Et lui faire comprendre qu'à quel point il est important qu'il parle, qu'il s'exprime et surtout qu'il aille parler à son père.
Oui, d'accord.
Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Après, ce sera trop tard. Tout le monde le sait.
Oui.
On ne peut pas faire comme si on ne savait pas.
Oui.
Aussi douloureux que ce soit, il vaut mieux l'affronter la tête haute en sachant ce qui se passe. Que d'attendre que ce soit fini pour pleurer après en disant j'aurais dû lui parler.
Oui.
Ça sera trop triste et trop dommage après. Et puis moi, je vais vous envoyer plein d'énergie pour vous.
Oui.
Des valises d'énergie. Vous en faites un stock.
Oui, Sabine.
D'accord.
Je vous remercie beaucoup et passez une bonne soirée.
Je vous embrasse très fort, Elisabeth.
Oui, moi aussi. À bientôt.
À bientôt. Donnez-moi de nouvelles. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Minuit moins 20 sur Europe 1, c'est effectivement l'heure des confidences 3921 et on vous rappelle tout de suite si vous souhaitez passer à l'antenne ce soir. Bonsoir Florine.
Bonsoir, avec tous mes voeux.
Merci, vous aussi, tous les miens.
J'étais très émue parce que cette musique rappelle toute ma jeunesse, parce que je ne suis pas toute jeune. C'était les belles années, voilà, on va dire que c'était les belles années.
La voix de Lou Reed.
Eh oui. Mais voilà, je n'appelle pas ça pour... Je n'appelle pas pour ça. J'appelle pour une affaire qui est très particulière. Puisqu'en fait, j'ai eu deux fils qui sont grands maintenant. Et j'ai un fils qui a choisi de changer de famille.
Comment ça, de changer de famille?
Eh bien, mon fils, je lui ai offert, mon mari et moi avons beaucoup travaillé, on avait des moyens. Et personnellement, j'ai lui offert des études très onéreuses en Suisse. Mmh. Elle a donc fait sa scolarité en Suisse et là, elle a rencontré sa petite amie, qui est aujourd'hui son épouse depuis le mois de juin. Mmh. Et en fait, d'année en année, il s'est écarté de nous, de sa famille, et il a décidé de changer de nom, c'est-à-dire qu'il a pris le nom de son épouse suisse, et il a même changé son prénom, il a modifié son prénom. C'est-à-dire que, en fait, le fils que j'ai connu ne s'appelle plus pareil. Voilà.
Ah, ça doit faire drôle, ça, dis donc.
C'est une drôle d'histoire, oui, c'est une drôle d'histoire. Et de plus, je le sens qu'il s'écarte de plus en plus de nous, en général. Je suis séparée de son père depuis 2007, mais bon, il avait des relations, je dirais, plutôt correctes avec son père. Mais il s'éloigne aussi de son frère. Et là, je stresse énormément puisque j'ai un fils à l'étranger qui n'a pas pu venir depuis plusieurs années à cause du Covid en France. Et on avait prévu de faire une réunion de famille et j'ai le sentiment qu'il a pas du tout envie d'y participer. On ne fait plus partie de son monde.
Alors quand vous dites le sentiment, ça veut dire qu'il n'y a plus de dialogue, d'échange entre vous ?
Il y a des dialogues, il y a des échanges, mais ce sont des échanges totalement superficiels. Je l'ai vu deux fois cette année, puisqu'il s'est marié une première fois à Stadt, très, très bling-bling au mois de juin. Après, il est allé se remarier au Canada, puisque la famille est anglo-saxonne. Et enfin, il a fait un troisième mariage à Montreux, au mois d'octobre.
Ça va, c'est chic tout ça.
Oui, c'est très chic tout ça, très très chic. Moi j'étais une invitée, hein, mais comme une autre. Je n'étais pas participante à l'organisation du mariage. On ne m'a pas demandé mon avis, on ne m'a rien demandé.
Vous connaissez ses beaux-parents ?
Je connais ses beaux-parents, ils sont charmants, ce sont des gens charmants. Ah. Mais ça ne vient pas des beaux-parents, je pense que ça ne vient pas des beaux-parents. Ça vient que mon fils a eu envie de changer de famille. Il a trouvé une épouse qui, je pense, le mène par le bout du nez. Et il s'aime, hein. Je veux dire, je ne mets pas en cause du tout leur relation d'amour. Mais le choix est vite fait, il choisit son épouse.
Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un choix à faire ? C'est ça que je ne comprends pas.
Mais c'est ça que je ne comprends pas non plus. Mais voilà, pourquoi c'est ce que tout le monde me dit, mais pourquoi n'arrive-t-il pas à équilibrer sa relation familiale et sa relation avec l'épouse et sa famille ? Donc il passe tous les week-ends, dans le chalet des parents. Ils sont allés faire du ski à Noël, mais ils n'ont pas pensé que je pouvais avoir besoin de les voir. C'est un monde que je ne connais pas.
Est-ce qu'il y a une grande différence sociale entre sa famille à elle et votre famille à vous ?
Il y en a une, mais pas assez grande que ça. Il y en a une, parce qu'effectivement, ils ont sûrement plus de moyens, mais je ne pense pas que ce soit le sujet.
Non,
je ne pense pas que ce soit le sujet.
On aurait pu se poser la question et se demander s'il n'a pas été attiré par tout ce qui brille, quoi.
Alors, il est sûrement attiré par l'ambiance. Vous savez, l'ambiance, les anglo-saxons sont très famille, très réunion, très... Et je pense que c'est ça qui lui plaît.
Voilà. Les réunions à Gstaad, ce n'est pas désagréable non plus. Hein.
Exactement, voilà. Exactement. Donc, depuis le mois de juin, je suis tombée. Enfin, je suis malade. Je travaille encore, malheureusement. À mon âge, ça ne va pas durer longtemps. Mais je n'arrive pas à supporter. Et alors, le pire, on arrive au pire, c'est que finalement, j'ai envie de m'écarter de tout ce qui est appel. Voilà.
Pardon, excusez-moi, il y a une micro-coupure, j'ai pas compris ce que vous m'avez dit.
J'ai envie de m'écarter de lui. Enfin, si vous voulez, dès que j'ai des contacts avec lui, ça me fait tellement mal.
Je
préfère jouer à l'autruche. Dire voilà, bon, il est parti. Quand je lui dis, mais en fait, tu pourrais venir me voir, il me répond, oui, mais bon, tu sais, mon idée, c'était d'aller vivre aux îles Fidji. Je lui réponds, mais pour l'instant, concrètement, tu n'es pas aux îles Fidji. La Suisse, j'y suis allée, je mets 6 heures de route, je l'ai fait plusieurs fois. Je ne vois pas pourquoi tu ne le ferais pas. Et là, il n'y a pas de réponse. C'est une huître, il n'y a pas de réponse. Et je pense que je vais perdre mon fils peu à peu.
Vous avez commencé à me parler d'elle. C'est une femme comment, sa femme ?
Ah, sa femme. C'est une femme très gentille, mais très égoïste, très jalouse, très possessive et très bling-bling. Voilà, tout dans le paraître.
Il n'y a pas eu de connexion entre elle et vous, si je comprends bien.
Il y en a eu au début. Il y en a eu au début. Au début, je m'entendais très bien avec elle. Et puis, il y a eu en fait un accrochage qui, je pense que tout le monde pense comme moi, que c'est parti de là. Ah. J'ai parlé religion. Et je suis catholique pratiquante. Et elle m'a vraiment une vraie harpie qui m'est sautée dessus quasiment, en n'ayant aucune tolérance par rapport à ça. Et d'ailleurs, ils se sont mariés New Age, voilà.
Qu'est-ce que c'est New Age ? Un mariage New Age, c'est quoi ?
Alors, un mariage New Age, c'est un mariage, comment appelle-t-on ça ? Entre des personnes qui organisent ça, vous voyez.
Ah, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de...
Non, rien du tout.
Mais ils l'ont fait à la mairie quand même, c'est officiel.
Alors, ils ont fait à la mairie, mais en s'en fichant complètement. Ça n'avait aucune importance pour eux. Mmh. Ils ont bâclé la mairie. Et après, donc, ils sont allés en haut de la montagne avec deux personnes qui ont officié.
Ah oui, donc échanges... c'est symbolique, c'est ça, vous me dites. Oui.
Voilà. Ça porte un nom, mais je ne peux plus vous dire le nom. Enfin, voilà, c'était très particulier. Bon, j'ai participé, mais j'avoue que je suis fatiguée de me battre contre moi-même parce que j'ai toujours été présente, j'ai toujours été souriante. J'ai toujours fait ce qu'il fallait, mais c'est en train de me démolir.
Mais si vous pensez que cet incident sur la religion est important, est-ce que vous vous souvenez précisément de ce qui a été dit et comment vous avez réagi l'une et l'autre ? Et comment ça s'est terminé surtout ? Parce que c'est de là que peut-être les choses ont pu se nouer.
Ah, ça s'est très bien terminé parce qu'on était en voiture et je lui ai dit que voilà, moi j'étais très pratiquante, etc. J'allais faire des retraites et tout. Et là, elle m'a sorti toutes les horreurs qu'elle pouvait sortir sur la religion.
Mais comme quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'elle a en tête, elle ? Qu'est-ce qui lui pose un souci comme ça ?
Qu'elle a en tête que tout ça, c'est de l'arnaque, que c'est des bêtises, que c'est etc. etc. Et mon fils qui a été élevé... la religion.
Oui, hein. J'allais vous demander justement, lui, qu'est-ce qu'il répond à ça ?
Ah ben, lui a adopté l'attitude de son épouse. C'est-à-dire, lui était petit chanteur à la cathédrale, c'était incroyable, et lui, du jour au lendemain, a tout planté. Ah. A tout planté aussi.
Ça a dû vous faire du mal, ça ?
Pas trop, parce que je suis très tolérante et je peux comprendre qu'à un moment donné, on ait envie de sa vie, de vivre autre chose et de jeter les choses. C'est pas ça qui me fait le plus de mal. En fait, je suis très, très tolérante, moi, pour toutes les religions. J'ai pas de problème. À partir du moment où on m'agresse pas. Non, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est l'espace que son épouse met entre mon fils et moi, quoi.
C'est-à-dire que... Peu de temps après cette altercation, vous avez senti que ça commençait à être un petit peu distant.
Oui. 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 Les choses se sont. J'ai senti peu à peu. Il me téléphonait une fois tous les trois semaines, une fois tous les mois. Je sentais que quelque chose était en train de se mettre en place. Mais bon, je crois que mon mari lui avait été peut-être plus raisonnable que moi. Et il faut dire que cet enfant a toujours été. Alors, savoir aussi. C'est qu'il y a un problème avec un fils, puisque mon deuxième fils, en fait, a subi les conséquences parce que son frère prenait toute la place. Et mon deuxième fils, il s'est toujours senti un petit peu laissé de côté. Voilà. De toute façon, il m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi. Donc, c'est un personnage très particulier, mon fils. Très particulier, mon fils aîné.
Oui, j'ai l'impression que c'est un caractère un peu spécial.
Tout à fait. Tout à fait, et elle a toujours occupé la place. Il n'y avait pas une année où il ne faisait pas une bêtise. Bon, pas des choses graves, mais il occupait la place. Et quand j'en ai parlé récemment à son frère, il m'a dit « Mais maman, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Il n'y avait pas de place pour deux. » Donc, j'étais bien obligée de rester dans mon coin.
Et aujourd'hui, vous en parlez tous les deux de cette froideur, là, cette distance qui s'est mise en place entre lui et vous deux, en fait ?
Pardon, avec mon fils aîné ?
Oui, avec l'autre.
Avec l'autre ou le petit? C'est lui le petit abandonné ou le grand?
Est-ce que vous parlez des problèmes que vous avez avec celui qui est en Suisse à l'autre?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Parce qu'il est adulte.
Ah, mais il est d'accord avec moi. Il est totalement d'accord avec moi que son frère de Suisse n'est pas du tout correct et se comporte très mal.
Il pense la même chose sur sa femme, donc c'est sa belle-sœur en l'occurrence.
On n'en parle pas trop. Je veux dire, ils ont un petit garçon. Le petit garçon parle de tonton, mais il parle pas de tata.
Mmh. Oui, il y a quelque chose quand même autour de cette femme là dans l'histoire. Hein, qui...
Il y a un énorme problème par rapport à cette femme. Mais je ne veux pas intervenir parce qu'ils sont très amoureux. Donc je n'en doute pas. Mmh. Donc voilà, je me rends compte que je n'ai qu'à me taire et puis le problème c'est que j'en tombe malade quoi.
Alors avant de vous taire, est-ce que vous avez quand même mis les pieds dans le plat avec lui une bonne fois?
Oh oui, une fois au mois de juin.
Ah alors?
Je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai eu un petit problème au cœur parce que oui, je me suis énormément fâchée et ça n'a rien donné.
Je ne pensais pas vous fâcher en mettant les pieds dans le plat, c'est plutôt essayer de comprendre, parce que vous fâcher, ça fait du mal à tout le monde, et à vous la première, vous l'avez vécu malheureusement.
Oui, je lui ai encore parlé aujourd'hui, mais il n'entend pas.
Mais qu'est-ce que vous lui avez dit quand vous dites que vous en avez fait un malaise? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là?
Au mois de juin?
Oui, pour en arriver jusqu'au malaise.
Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mariage? Parce que comme c'est elle qui s'était occupée de tout, mon fils étant travaillant beaucoup, j'avais été avertie de rien, j'étais au courant de rien. Vraiment, j'arrivais sans avoir aucune information sur le mariage. Donc je lui ai dit, mais enfin, est-ce que tu te rends compte que je pars bientôt au mariage, je ne sais pas ce qui se passe, on ne me dit rien, je ne sais pas, etc. Et il m'a répondu, et je lui ai dit, mais enfin, il y a des choses qui m'étonnent et tout. J'ai validé tout ce que mon épouse, ma future épouse, a décidé.
Mais vous ne croyez pas qu'en en abordant les choses un peu dans le reproche, comme ça, vous fermez la porte tout de suite au dialogue? Et il se braque?
C'est possible.
Parce que s'il est effectivement un peu soumis à cette femme, et que de l'autre côté, sa mère lui dit « Tu te rends compte? Tu as fait ci, tu as fait ça, ça s'est passé comme ci. » En bon courageux, il s'est courage fillon, quoi.
Ah, exactement. C'est tout à fait ça.
Mais oui.
Mais mon souci, c'est que j'ai plus envie. J'ai perdu l'envie de faire quelque chose.
Bah, je comprends, parce que c'est un peu un mur, comme vous dites, une huître, quoi, à chaque fois.
Voilà. Et j'avais un mari un peu pareil, donc...
J'allais vous poser la question si ça vous ramenait à quelque chose, justement, qui était douloureux comme ça.
Oui, le père de son fils. Enfin, c'est le fils de son père, pardon.
Oui, oulala, l'envoi mini.
Voilà, oui, oui. Non, ces deux-là sont très autruches. On ne veut pas voir, on ne veut pas savoir. Ils ne veulent pas savoir.
Ce qui est dommage...
Oui, j'ai fait un mail à mon mari ce soir, enfin, parce que je ne suis toujours pas divorcée, même séparée. Bon, il m'a à peine répondu. Enfin, bon, des banalités, quoi. Voilà. Ce n'est pas son problème, il s'en fiche.
Alors, je vais vous lire un mail, alors sans aucun engagement, parce que je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, mais il y a Marie qui écrit « Je connais bien le New Age anglo-saxon, c'est proche des mouvements sectaires. » Alors, je ne sais absolument pas si c'est vrai ou pas, mais si c'était le cas, je me dirais « Tiens, tiens. »
Oui, c'est vrai qu'ils sont très, très proches les uns des autres. Sectaires, ça ne m'étonne pas, mais ça ne me paraît pas. Mais ce sont des gens qui, effectivement, ont une vie communautaire très forte.
Mais oui.
Ce qui n'est pas notre cas, effectivement. Moi, je suis plutôt latine, vous voyez.
Et ça peut expliquer son espèce de reconversion, presque, j'allais dire.
Tout à fait, mais c'est exactement
le terme. Au point de changer... Oui, parce qu'au point de changer de nom, ça va loin, quoi. C'est pour ça que je me dis tiens, tiens, quand même, avec un point d'interrogation.
Oui, oui. Et je pense que malheureusement, c'est quand même quelque chose d'assez rare de changer de nom, de changer de vie, de changer de famille. Je crois qu'il a fait un choix de nous quitter et il va falloir que j'accepte cette situation, malheureusement. Mais c'est douloureux, c'est très douloureux, c'est très douloureux. Et surtout, je ne sais pas quelle faute j'ai pu faire.
Alors justement, je crois que c'est là que c'est intéressant de comprendre le fonctionnement de l'autre côté. Parce que vous me dites que ce n'est pas courant. Si, malheureusement, ça l'est. Souvent, on entend même sur cette libre antenne des mamans qui nous racontent que leur enfant a coupé les ponts. Mais c'est souvent suite à quand même un gros problème. Il y a eu une mésentente dans l'enfance, il y a eu des non-dits, il y a eu des rancœurs, des choses qui sont restées coincées. Et un jour, ça explose. Mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas.
Pas du tout, pas du tout.
Là, ça ressemble quand même un petit peu, effectivement, à un garçon qui est très attiré par tout ce qui est quand même très beau, très chic, très riche.
Oui.
Par un certain mode de vie. Alors, je ne sais pas quel est le mode de vie de ces gens-là. Et c'est là où il y a point d'interrogation. Quand je parle de mode de vie, je parle de tout ce que ça peut impliquer dans une sorte de communauté, d'implication, jusqu'où elle va, pour qu'il en aille à changer son nom, alors qu'il n'est pas en conflit avec vous, qui c'est quand même presque une déclaration, j'allais pas dire de guerre, mais de rupture, effectivement, de changer de nom.
Voilà. Et c'est ça, parce qu'il n'y a pas de conflit. Simplement, un jour, il m'a dit, très longtemps, au moment de la séparation de mon mari, de toute façon, on n'est plus une famille.
Ah, alors est-ce qu'il n'y aurait quand même pas quelque chose de qui serait resté coincé à ce moment-là
dans son, je pense.
Dans son histoire à
je
lui
pense.
Parce que vous me dites qu'il n'y a rien, mais s'il vous a dit ça, c'est qu'il a très mal vécu le divorce à ce moment-là.
Comme beaucoup de jeunes, hein. C'est sûr que c'était pas facile. Ce n'était pas un divorce, hein, c'est une séparation. On continuait à se voir. Je veux dire que les relations étaient relativement, je dirais presque amicales. Hein.
Pourquoi vous êtes séparés alors?
Pourquoi je me suis séparée? Oh là là, c'était très compliqué. Mon mari a beaucoup voyagé toute sa vie et mon mari, à un moment donné, a été bipolaire. Et la vie était devenue absolument insupportable et je ne pouvais plus tenir. Voilà, je ne pouvais plus tenir. Et lui était dans le déni en plus. Donc, il y a un moment où je n'ai pas pu tenir. Je n'ai pas pu tenir et c'était trop dur. Quand vous êtes dans le déni, quand la personne est dans le déni, c'est très dur. C'est très, très dur.
Et votre fils le savait, ça l'a su à l'époque?
Oui.
Oui, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. D'accord.
Ah non, mes enfants ont su tout, l'origine d'ailleurs de sa bipolarité, etc. Ils savent tout, je leur ai tout expliqué, et en disant, voilà, moi j'ai besoin de respirer, de reprendre ma vie en main, ma carrière en main, etc. Non, ils ont été au courant de tout. Mais je crois que malheureusement, comme vous dites, il a besoin de respirer un autre air. En plus, cette famille-là a une île au Canada. Donc, il s'y éclate, il est très heureux de pouvoir y aller. Je pense que tout ça l'attire beaucoup. Il n'est pas prêt à renoncer à tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il pourrait très bien passer un petit coup de fil à sa maman et qu'il pourrait être tout à fait, charmant avec moi.
Mais c'est vrai. Florine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre conversation, mais juste après les infos, si vous le permettez.
D'accord.
Merci
d'accord.
beaucoup. À tout de suite.
À demain.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Merci d'avoir choisi la libre antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée. Il nous reste une petite heure à passer ensemble et en direct. Et vous continuez à nous appeler bien sûr au 3921 si vous souhaitez parler de vous ce soir d'un sujet qui vous préoccupe. 3921, Cindy et Nicolas sont là, ils attendent vos appels au standard pour vous guider ensuite jusqu'à moi. Et pour continuer à intervenir par SMS comme vous êtes nombreux à le faire ce soir et je vous en remercie, vous faites le 73921 suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et Florine, je vous récupère, vous êtes là?
Oui, je suis là, bien sûr.
Donc vous me disiez avant les informations que vous avez deux garçons et que l'aîné... D'ailleurs, c'est curieux, vous m'avez dit qu'il a fait des études assez chères en Suisse, mais pas le second?
Non.
Non.
Non, pas le second.
D'accord.
Le second n'avait pas envie de ce type d'études. Il a fait d'autres études brillantes aussi, mais il n'a pas fait ce type d'études. Voilà.
D'accord. Donc, résultat, celui qui a fait ses études en Suisse a rencontré une Suissesse.
Oui.
D'un milieu, d'après ce que j'ai compris, extrêmement aisé.
Oui,
anglo-saxon. Un peu, peut-être, on a envisagé quelque chose d'un peu sectaire aussi, parce qu'il y a des comportements qui nous paraissent et qui vous paraissent curieux, puisqu'il est allé jusqu'à changer son nom de famille et son prénom.
Oui.
Et surtout,
oui.
Vous sentez qu'il est en train de peut-être pas de rompre, mais en tout cas de mettre beaucoup, beaucoup de distance entre lui et vous.
Énormément, énormément, oui, oui, tout à fait. Et je pense que je ne peux rien faire contre ça, et je vais le laisser voler de ses propres ailes. Je pense que, voilà, c'est sa vie, voilà, je ne peux rien faire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant dans ce comportement, tout à fait.
Alors, ça m'inspire plusieurs remarques, si vous le permettez.
Oui.
La première, c'est qu'on a beau effectivement soulever des choses en disant « Est-ce qu'il a mal vécu le divorce et qu'il vous en aurait tenu rigueur ? Est-ce qu'il se vengerait aujourd'hui ?» On ne sait pas vraiment, c'est l'interprétation. Est-ce que c'est elle qu'il manipule pour une raison X ou Y, ou est-ce qu'ils sont effectivement dans quelque chose d'un peu sectaire ? On n'en sait rien non plus. Ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas envie.
Il n'a pas envie.
Il n'a pas envie.
C'est
et
ça.
Vous savez, une relation... J'aime bien la visualiser comme un lien entre deux personnes. Et chacun est responsable de la moitié de ce lien, de cette relation.
Voilà.
Chacun est en charge de sa partie de la relation. Et vous avez fait ce que vous pouviez sans votre partie à vous. Sa partie à lui, malheureusement, c'est la sienne. Et si lui ne veut pas l'entretenir, vous ne pouvez absolument rien y faire.
Voilà. Non, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me dis. J'essaie de me... J'ai pris une psy pour justement travailler là-dessus. Pour couper le lien, mais... faire que ce lien ne soit
qui
se désagrège ne soit pas douloureux, voilà.
Pour vous. Oui, alors ça, vous avez entièrement raison, c'est la priorité. Mais attention, moi je rajouterais quand même, pour l'instant, rien n'est jamais définitif. Et avant de faire ça, moi je lui enverrai un message écrit, parce que ça reste, soit un mail, soit un courrier, pour lui dire très très gentiment, pas d'accusation, pas de tu encore fait, si simplement écoute, voilà, je crois comprendre que tu préfères prendre tes distances. Je le respecte, mais sache que je serai toujours là s'il y avait quoi que ce soit. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer dans ce genre de famille non plus.
Exactement. Non, mais tout à fait.
Juste lui dire que vous êtes là. Point. Mais qu'à un moment donné, vous avez aussi, vous devenez votre priorité parce que vous êtes importante aussi.
Oui, et puis moi, j'ai aussi ma vie.
Exactement. Ça n'est pas vivable pour vous, ça.
Je peux pas rester comme ça en attente d'un appel qui vient jamais. C'est pas une solution, quoi.
Mais ça ne veut pas dire que ça ne viendra jamais, justement. C'est ça que j'aimerais vous garder dans un coin de votre esprit. C'est pas encore, pas pour l'instant.
Pour l'instant. Bon,
et que pour l'instant, vous avez raison, la priorité, c'est vous, parce que ça vous rend malade pour ça, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible.
C'est dommage, parce que là, je vais être en retraite et c'est en train de me gâcher complètement ma retraite. Donc, il faut absolument que je trouve une issue pour moi.
Exactement. Voilà. Et vous avez très bien fait de vous faire aider par une thérapeute. C'est une très bonne idée. Pour arriver à vivre ça le plus sereinement possible.
Oui.
Pour l'instant, en vous disant, voilà, je ne sais pas, personne ne sait ce qui va se passer. Après, personne ne comprend exactement ce qui se passe maintenant non plus. Donc, a fortiori, comprendre ce qui va se passer après, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est vraiment la motivation de votre fils pour l'instant ? On n'en sait rien. Ce ne sont que des interprétations.
Ce que je sais, c'est qu'il est entouré de plein de gens que je ne connais pas, qui sont leurs amis, et avec qui je n'ai d'ailleurs eu aucune relation lors du mariage. Il y a vraiment une scission, voilà.
Oui, enfin, il y a scission quand on le veut, parce que l'un n'empêche pas l'autre.
Bah, j'ai réussi quand même à parler à quelques personnes, mais il n'y avait pas de volonté de venir vers moi.
Non, mais je veux dire, la scission, c'est votre fils qui la souhaite, c'est ça que je veux dire. C'est que, il n'est pas obligé de choisir, même si, vous ne vous entendez pas spécialement avec ces gens-là, et alors ? Il y a de la place pour tout le monde.
Mais je pense que j'aurais pu très bien m'entendre avec eux si on avait pu parler ensemble, mais ça n'a pas été le cas, quoi.
Oui, c'est pour ça. Il y a beaucoup d'inconnus dans cette histoire. Et pour vous, vous avez compris qu'effectivement, vous allez vous taper la tête contre les murs si vous continuez.
Oui, exactement, exactement.
Et comme vous dites, vous méritez mieux que ça, vous avez votre vie.
Ouais.
Et puis, une fois de plus, chacun est responsable de sa partie de la relation. Vous avez fait tout ce que vous avez pu avec votre partie à vous. Lui, il ne fait rien avec la sienne. Pour l'instant, il ne fait rien avec la sienne. Mais il sait qu'elle existe. Il faut qu'il sache qu'elle est là, cette relation, quand même. Même si elle est en silence, elle est là.
D'accord.
Parce que ça va vous faire beaucoup trop de mal si c'est complètement coupé.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Sabine.
Avec plaisir, Florine. Vraiment, bonne... J'aime pas ce mot « bon courage » parce qu'il induit des choses qui sont difficiles.
Bonne continuation. Voilà, je vais avancer, je vais continuer mon chemin de toute façon.
C'est ça, exactement. Et pensez à vous, maintenant, tout de suite.
Mm-hmm.
Et après, puis vous avez votre autre fils qui est quand même là aussi.
Ah oui, c'est important, j'ai un petit-fils et c'est un vrai bonheur.
Ah ben
oui. Je n'ai pas tout perdu.
Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Et ce n'est pas perdu forcément l'autre côté. C'est en pause.
D'accord.
On va dire que c'est en pause pour
l'instant.
Hein, D'accord.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous embrasse, Fleury.
Bonne soirée à vous et encore, je vous embrasse. Au revoir.
Vous aussi, venez vous confier à Sabine Marin en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Depuis le témoignage de Florine, vous êtes assez nombreux à nous envoyer des messages en suggérant qu'il s'agit peut-être effectivement d'un mouvement sectaire. Voilà un sujet intéressant. Si vous êtes concerné par ces mouvements sectaires, appelez-nous pour nous raconter un peu comment ça se passe. Ce serait vraiment, vraiment intéressant d'avoir votre témoignage. 39 21 et je vous accueille avec grand plaisir. Et c'est Constance que j'accueille maintenant. Bonsoir à vous, Constance.
Bonsoir, Sabine.
Bienvenue.
Merci. Oui, merci d'avoir pris mon appel.
Avec plaisir. Et... qu'est-ce qui vous amène?
Ben écoutez, déjà, je voulais vous dire que votre émission, ben j'ai écouté donc la personne juste avant, Florine, je crois.
Oui.
Et je pourrais reprendre un peu ces mots parce que votre émission, c'est bien d'avoir appelé la porte ouverte. Porte ouverte, main tendue, c'est ce qu'on ressent. Oui. Quand on vous appelle avant de poser le genou à terre et de se dire trop de coups, là, on va craquer, il faut trouver une porte ouverte et... c'est un peu ce qu'on ressent en vous appelant. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Je rentre dans votre porte chercher de l'aide.
Eh bien, soyez la bienvenue, Constance.
Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. En fait, là, oui, je suis sur le point de poser genou à terre parce que ça fait bientôt 20 ans que je me bats avec ma fille aînée. Enfin, je me bats à côté d'elle plutôt parce qu'elle a été diagnostiquée bipolaire. Maintenant, elle a eu pas mal de gros soucis dans sa vie. Bon, ça a commencé par... elle a eu un problème d'inceste petite.
Ah.
Après, bon, bah, elle a une vie... j'avais retrouvé ma fille très gaie. On avait une vie de famille sans problème.
Combien d'enfants avez-vous? Malheureux.
J'en ai 3.
D'accord.
Et elle est l'aînée.
Ok.
Voilà, donc tout allait bien. Et puis, finalement, quand elle a eu ses enfants, après, bon, ça a commencé à pas aller du tout dans son couple. Et elle a subi aussi de la violence. Et je ne l'ai pas su tout de suite.
De la part de qui, cette violence?
De son mari.
Ah.
Et je pense que ça a rouvert les plaies. Et du coup, ça va crescendo. Alors bon... depuis une vingtaine d'années, ben je n'ai plus trop de vie. Je la soutiens, mais j'en arrive à... Là, j'ai passé tellement d'épisodes, à chaque fois en pensant que c'était la fin. Et là, donc ce qui m'emmène ce soir, c'est que là, on est à la phase où elle prend des médicaments donc, pour la dépression, la bipolarité, depuis très longtemps.
Oui.
Donc depuis une quinzaine d'années.
Elle a quel âge aujourd'hui, maintenant?
46 ans.
46, d'accord.
Et donc, elle vit maintenant avec ses deux garçons, puisque les deux aînés sont partis. Elle a un garçon de 15 et un autre de 18 ans. Et là, j'ai mon petit-fils qui m'a appelé à 6 heures du matin en me disant « Maman, elle parle toute seule, elle est très agitée, elle s'est mise debout, mais on croirait qu'elle est au téléphone, elle parle toute seule. » Mais je savais déjà, elle m'avait déjà confié qu'elle avait des nuits très agitées parce que elle essaie maintenant de se débarrasser de ses médicaments.
Ah oui, mais
donc,
c'est...
elle ne les prend plus ou elle les prend peu. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas non plus se fier à ce qu'elle dit parce qu'elle dit un peu ce qui l'arrange.
Eh oui, souvent c'est le cas, bien sûr. Oui. Malheureusement, il y a des mensonges.
Beaucoup, elle ment beaucoup. Donc moi, j'essaye un peu de rétablir un peu de vérité pour la soutenir, mais ça, on n'a pas tout, c'est pas facile. Et donc, à 6 heures du matin, mon petit-fils m'appelle affolé, il me dit... elle parle toute seule, mais je l'entendais parler. Pendant que lui me parlait, j'entendais ma fille qui parlait. Elle m'a dit, elle est allée à la cuisine, elle est revenue, elle s'est cognée, et elle parle, j'essaye de la coucher, enfin bref. Donc il a fini par arriver à la coucher, mais elle est tombée 2 fois du lit. Donc il me dit, je l'ai remise dans son lit une première fois, mais elle est retombée. Enfin bon, il est lui-même, je vois bien aussi, ils sont perturbés.
Mais où est son mari? Vous m'avez dit qu'elle a subi des violences, mais est-ce que...
ils ont divorcé, donc c'est pareil, il y a eu tout un tas d'épisodes. Hein. Elle a eu une personne au niveau de l'éducation qui a suivi aussi pour les enfants parce qu'on avait peur qu'ils soient en danger après. Parce que,
oh la pauvre, elle a quand même une vie difficile.
Oh, très difficile.
Qu'est-ce qu'elle a affronté comme épreuve?
Oui, elle a affronté beaucoup de choses. Donc, le problème, c'est que j'ai toujours été là avec elle. Et donc, il y a eu par la suite donc, des soucis avec les enfants, forcément, qui ont vécu ça.
Oui.
Parce que ce que vit, ce qui me fait aussi peur, c'est que ce que vit mon petit-fils aujourd'hui qui m'appelle, sa grande fille de 25 ans l'a vécu et m'a aussi sollicité. Donc, je le fais avec quasiment les enfants les uns derrière les autres. Et moi, je m'épuise.
Mais comment ça se fait qu'en étant si fragile psychologiquement, elle ait eu autant d'enfants?
Ça a été aussi un problème, je ne sais pas. Et à chaque fois qu'elle était enceinte, alors c'était moi qui étais malheureuse parce que je disais, mais en plus, elle ne travaillait pas, son mari travaillait épisodiquement. Et donc, il fallait que je les soutienne aussi. Et donc, quand elle m'annonçait une nouvelle grossesse, alors elle me l'annonçait, elle savait que je serais contrariée, donc elle me l'annonçait quasiment quand elle était déjà bien enceinte.
Oui.
4 mois, 5 mois.
Donc elle avait conscience que c'était un peu irresponsable.
Ah, complètement, mais c'est ce que me dit tout mon entourage. Mais bon, après, on ne peut pas la laisser tomber non plus, et on ne peut
bien
pas laisser
sûr
tomber les enfants. Donc je suis dans un engrenage où la plus grande, il y a à peu près 2 ans, elle était en souffrance, enfin elle a été en souffrance pendant des années, elle était à la maison, elle s'enfermait dans une pièce, elle ne faisait plus rien, elle était en conflit avec sa mère, elle ne voulait pas partir, enfin, donc il a fallu aussi que je gère tout ça avec elle. Enfin bon, on a fini par lui demander de partir parce que c'est infernal, elle commence à taper sa mère, enfin bon.
Et oui, mais c'est compliqué de se construire pour des enfants avec une mère comme ça.
C'est très difficile.
Il n'y a pas de stabilité du tout. Avec en plus un père qui a été violent, ça complique encore plus le socle.
Violent et irresponsable.
Voilà.
Et irresponsable.
Oui, mais comment voulez-vous qu'ils s'en sortent bien, les enfants, après?
Oui, mais il faut quand même les soutenir. Donc moi, j'essaye de soutenir chacun à son tour quand il m'appelle. Enfin, même quand il ne m'appelle pas, d'être là pour tous. Mais moi, je m'épuise et là, je suis à la retraite depuis un certain temps, mais je suis suspendue, en fait, à ses appels. Et d'autant plus que quelquefois, elle me sollicite quand elle a un gros souci. Et puis après, elle va me dire, je ne veux plus que tu me parles parce que tu me fais des remarques désagréables. Donc peut-être, la dernière fois, elle m'a dit que c'est même définitif, qu'on ne se parlera plus.
Oui, mais vous savez que ce n'est pas elle qui parle, c'est sa maladie, là.
Elle a des
hauts et des bas, et quand elle est en bas, elle vous parle comme ça. Quand elle est en haut, elle vous saute au cou.
Oui. Mais ça fait tellement longtemps que ça dure que
dur,
moi, ça m'épuise.
Bien sûr.
J'en suis arrivée à me dire, c'est comme si elle a une télécommande et qu'elle me télécommande à distance, en fait. Après, elle m'a appelée pour me dire, parce que ses enfants étaient malades, elle m'appelle au secours. Et peut-être une semaine après, elle va me dire, non, je ne te parle plus. Enfin bon, je suis télécommandée, en fait, et je ne peux pas dire non. Et quand ce n'est pas elle, c'est les enfants qu'il faut soutenir. Donc peu importe, mon état, à la limite, c'est pas trop grave.
Ben si, c'est
mais
grave.
Mais aujourd'hui...
Si, Constance, c'est grave. Parce que si vous vous écroulez, qui tient debout derrière pour les enfants?
C'est pour ça que je vous appelle. C'est pour ça que je vous dis avant de me mettre le genou à terre. Parce que là, je sais plus quoi faire par rapport à ces médicaments. J'ai peur qu'elles deviennent dangereuses pour les enfants. Parce que le petit, il était affolé cette nuit. J'ai réussi à le rassurer quand même en lui expliquant que... Bon, c'est normal qu'elle parle parce que son cerveau, maintenant, était tellement habitué aux médicaments qu'il ne peut plus gérer. Donc, ce n'est pas dramatique, mais que nous-mêmes, on parle la nuit quelquefois, etc. Pour le rassurer, parce qu'il était tellement en panique qu'il découvrait ça, en fait.
Vous dites le petit, c'est un enfant qui a quel âge?
Il a 15 ans.
Oui, d'accord.
Il a 15 ans. Mais ils sont très solidaires avec leur maman, le fils. Enfin, les deux, 15 et 18 ans. Je suis allée faire un séjour chez elle il n'y a pas longtemps. Mmh. D'ailleurs, c'est pareil, la maison, quand j'y vais, c'est pour la remettre en état parce qu'elle n'arrive pas à la tenir. Il y a du linge partout, il y a de la saleté partout. Enfin, bref. Donc, je parle avec les enfants, je leur demande si ça va, comment est-ce que ça se passe pour eux, est-ce qu'ils ont besoin d'aide. Et alors, pareil, il couvre maman en me disant « Non, mais ça va, on est habitués maintenant, on sait gérer. » Et puis, je vois bien qu'il ne faut pas les séparer de leur mère, ce sera encore plus grave. Parce que, autre épisode, c'est que les deux grands ont été placés à un moment donné.
Et j'allais vous poser la question, parce que là, c'est limite quand même. On est à la limite de ça.
Ouais. Les deux grands ont été placés parce que quand il y a eu de la grande violence, en fait, le père avait poussé la maman dans l'escalier... Et elle avait failli tomber, en fait. Et ce sont les filles qui ont dû aider pour qu'il arrête. Et donc finalement, bon, ça s'est terminé, qu'il y a eu un procès, etc. Enfin bref. Et puis elle, à ce moment-là, elle était vraiment en grosse dépression parce qu'elle disait, ce ne sont plus mes enfants, ce ne sont pas mes enfants, je n'en veux pas, ce ne sont pas mes enfants.
Voilà, vous avez compris que c'est une fois de plus, c'est la partie malade d'elle qui s'exprime. Voilà. Mais ce père, quand bien même il a été violent avec elle, est-ce qu'il a quand même une responsabilité envers les enfants ? Est-ce qu'il s'en occupe, ne serait-ce qu'un tout petit peu ?
Il s'en est occupé quand elle a été... Alors du coup, quand ça s'est passé et que... elle ne voulait plus voir les enfants. Elle a été, elle, hospitalisée plusieurs fois en psychiatrie.
Et alors là, qu'est-ce qu'il a fait, lui ?
Lui, il s'est occupé des garçons et les filles ont été placées.
Bon. Et ça veut dire ça arrivait, il pourrait s'occuper des garçons potentiellement ? Non,
plus maintenant, plus terminé. Non, il a eu des actes de violence plusieurs fois après elle, malgré que maintenant ils sont divorcés. Il a déséquilibré les enfants par ses attitudes, parce que les enfants forcément prennent pour leur mère quand ils voient le père vouloir violenter leur maman alors qu'ils sont divorcés. Et donc là, il ne travaille plus, il est parti vivre ailleurs, il s'est remarié, enfin bon, il est resté 6 mois marié, il a, je crois, plus utilisé la nouvelle femme qu'autre chose. Il est parti entre-temps, il ne travaille plus, il vivait avec le RSA. Il a perdu son RSA, on l'a mis à la porte de son appartement parce qu'il ne payait plus, enfin, et il ne travaille pas. Donc, c'est le mauvais exemple pour les enfants.
D'accord, aucun espoir de ce côté-là.
Et au contraire, il demandait même aux enfants de lui donner de leur argent de poche.
Ah, oui, d'accord. J'ai une autre question, Constance. Oui. C'est pourquoi est-ce que votre fille, subitement, souhaite arrêter son traitement alors que ça fait 20 ans qu'elle le prend ? Qu'est-ce qui lui arrive ?
Je ne peux pas comprendre ses réactions non plus. Ça, je ne me l'explique pas, mais en fait, je me suis raccrochée au fait que peut-être enfin, elle réalisait qu'il fallait qu'elle se désintoxique de tous ces médicaments, parce que c'est vrai que, bon, elle prend beaucoup de médicaments, mais je me demande si elle n'en prend pas quelquefois de trop quand ça ne va pas. Elle a eu des périodes où elle en prenait, elle surdosait, à mon avis, pour mieux s'endormir, et elle dort beaucoup. Bien qu'elle ait les enfants, quelquefois, elle se réveille à 15 heures.
Mais le problème, c'est que
enfants se débrouillent.
Sur des pathologies psychiatriques comme ça, c'est extrêmement dangereux de faire de l'automédication.
Oui, c'est ça. Donc, il y a eu ces périodes aussi où elle a dû être hospitalisée parce que ses enfants l'ont trouvée par terre parce qu'elle prenait trop de médicaments. Bon, maintenant, ce n'est plus trop le cas. Mais j'ai l'impression que d'un seul coup, elle s'est dit « Maintenant, je reveux une vie normale et je ne veux plus les médicaments. »
Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on arrête. On arrête avec un suivi. C'est un sevrage.
C'est ça.
Extrêmement
donc,
important.
J'ai essayé d'y trouver.
Est-ce qu'elle est suivie par un médecin ou un psy ?
Elle a un psychiatre qui la suit régulièrement tous les mois et elle a un médecin généraliste.
Est-ce que vous les connaissez ?
Oui, tout à fait, puisque elle en avait un avec qui ça n'allait pas et je suis allée au CMP avec elle pour exiger qu'on la change. J'ai fait des courriers et elle est suivie maintenant par le responsable du CMP qui est très très bien. Que je n'arrive pas à joindre. Parce que ça, depuis cet été, je lui laisse des messages, on me dit qu'il va me rappeler, mais ils sont débordés.
Écrivez-lui.
Et il ne me rappelle pas.
Écrivez-lui. C'est important qu'il soit au courant de ce qui se passe là en ce moment. Parce que si vous me dites que c'est quelqu'un de bien, ça peut être un très bon allié pour vous.
Il est très bien.
Demandez-lui conseil et dites-lui ce qui se passe au niveau du médicament. Parce que ça, c'est une urgence, vraiment.
Alors moi, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai trouvé un centre pour l'aider à la désintoxication, ou détoxication, je ne sais pas comment on dit, médicamenteuse.
Désintoxication aussi, oui, je pense.
Désintoxication. Donc, un premier centre dont finalement les avis n'étaient pas très bons, donc j'ai renoncé. Et là, elle a un centre à côté de chez elle qui m'a été conseillé, qui a l'air pas mal.
Mais est-ce qu'elle y va ?
Et elle a pris contact, pardon ?
Est-ce qu'elle y va ? C'est ça aussi ?
Oui, elle a pris contact et elle m'a dit qu'elle va y aller là prochainement. Et ensuite, il faut qu'elle fasse remplir un dossier par le psychiatre.
Mais vous me disiez aussi qu'elle vous ment beaucoup, donc attention à ça, quoi. Si elle vous dit ça pour être tranquille...
Ça.
Si elle y va, c'est déjà un premier pas vers quelque chose de positif, un encadrement plus sérieux.
Oui, sauf que là, il y a l'urgence là de cette nuit. Et je me dis, si elle tombe comme ça, et puis les enfants vont être inquiets, parce que ça s'est passé, ça tombe bien hier soir. Et donc c'était le week-end, donc les enfants sont à côté. Mais je sais que le petit, quand il va aller à l'école demain, il va se dire, mais maman, c'est pareil, elle s'est levée à 15 heures, je suis restée... aux informations toute la matinée avec lui, à lui demander est-ce qu'elle est levée, est-ce qu'elle est levée. Il me dit non, 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 elle dort encore. Donc, il va se dire, maman, pendant qu'il est à l'école, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle est tombée. Elle est tombée, il l'a ramassée, il l'a remise dans son lit. Donc, il ne va pas pouvoir avoir une... Comment dire,
se concentrer à l'école, bah oui, bien sûr.
Se concentrer à l'école, je sais bien.
C'est source d'angoisse pour eux, donc, tout ça.
Voilà, donc moi, du coup, moi, je suis très loin. Donc, j'ai fait une demande de logement pour qu'elle se rapproche de moi, parce que je me dis que s'ils sont à côté, alors ça permettra peut-être qu'elle puisse faire des séjours psychiatriques, oui, quand elle en a besoin, et oui, que moi, les enfants, qu'on s'en occupe. Mais pour ça, c'est quelque chose qui va peut-être se faire que dans 2 ans. Elle n'aura pas un appartement comme ça en claquant des doigts.
Vous êtes à combien de kilomètres de chez elle, de chez eux?
Je suis à 500 kilomètres.
500?
Oui.
Ah oui, effectivement, c'est compliqué ça. Et comme les enfants sont scolarisés, on ne peut pas les changer d'école comme ça pour les mettre chez vous, quoi.
Ben, ça va se faire si, de toute façon, si ils ont l'appartement, ils vont...
Oui, s'ils ont l'appartement, mais là, pour l'instant, effectivement, ça n'est pas, ça ne sera pas tout de suite.
Non, quoi. Et puis je n'en ai plus la force. Je n'aurai pas la force. Là, je suis épuisée par... Depuis qu'elle a des enfants, en fait, depuis le premier, ça ne va pas. Donc, je suis sollicitée sans arrêt. Elle n'est pas mon seul enfant, j'en ai 2 autres, donc ce n'est pas juste non plus que je ne sois pas là pour les autres. Donc, je suis épuisée. Je ne peux pas aujourd'hui me dire que je vais prendre les 2 enfants chez moi, en être responsable avec les problèmes d'ado, de suivi d'école. Je n'en ai plus la force.
Mais je comprends.
À tel point qu'il m'arrive tout un tas de trucs. Je suis tombée il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense que tout ça, ce sont des signes. Je pense que, puis je sens bien parce que je suis quelqu'un de battant, mais là je me sens traquée, en fait, je sais plus comment faire.
C'est pour ça qu'il faut pas tout garder pour vous, et je pense vraiment qu'il faut jouer la carte du directeur du CMP. D'une manière ou d'une autre, il faut arriver à le joindre.
Depuis le mois d'août, j'appelle, et en chaque fois on me dit oui, on laisse ce message, il va vous rappeler, mais il n'y a rien à faire.
Mais je vous dis, écrivez-lui ou allez le voir, allez leur dire que c'est vraiment urgent, que votre fille est en train de faire n'importe quoi.
Ça veut dire qu'il faut que je quitte ma région pour aller de nouveau.
Si vous pouviez faire un aller-retour, ça serait. Si vous pouvez. Ou alors un courrier.
Ouais.
Un courrier, parce que là, c'est pour vous, c'est un allié de poids qui est sur place.
Alors, autre chose aussi, c'est que je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je me suis dit, si elle veut vraiment se débarrasser des médicaments, lui, peut-être qu'il va vouloir la réhospitaliser et on va lui refaire prendre des médicaments. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de la trahir dans ce cas-là et de ne pas aller dans le sens où elle veut aujourd'hui reprendre sa vie en main, peut-être?
C'est pas une trahison, Constance. La seule bonne idée, c'est qu'elle soit prise en charge par des professionnels. Point. Il n'y a pas de trahison à écouter. Ce n'est pas à elle de décider de ça, de choisir son traitement, son dosage, comme ça, n'importe comment. C'est beaucoup trop risqué pour elle et pour les enfants. Ce n'est pas la trahir, c'est la protéger, ce que vous faites.
Oui, et protéger les enfants aussi.
Et protéger les enfants, bien sûr, évidemment.
Ce n'est pas vivable pour eux, ça. C'est pas
elle n'est pas en état psychologiquement de choisir quel est le traitement pour elle, adéquat ou pas, vous pensez bien. Qu'elle ait envie d'arrêter ou diminuer, je peux le comprendre, mais là, elle le fait n'importe comment. La preuve, c'est qu'elle fait des crises qui ne sont pas tout à fait, qui sont inquiétantes pour la suite.
Est-ce qu'elle peut devenir dangereuse pour les enfants en arrêtant ces médicaments d'un coup ?
Comment voulez-vous que je vous dise ça à distance sans la connaître, et je ne suis pas médecin, hein,
c'est toutes ces questions que je me pose.
C'est pas sécurisant. C'est pour ça que ça serait bien de la poser à ce monsieur qui la connaît et qui est sur place, quoi, surtout. Les enfants, ce sont comme des ados, ce sont des grands enfants. Donc ce que je veux dire, c'est que physiquement, ils peuvent aussi y avoir du répondant s'il y a un problème. Vous voyez, c'est pas comme si elle gérait des petits de 5 ans à qui elle pourrait faire du mal.
Oui.
Là, c'est pas, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'un accident, mais quand même, ils sont costauds, ils sont grands. La preuve, ce sont eux qui la mettent au lit, c'est quand même révélateur. Donc ça, c'est plutôt rassurant, vous voyez, de se dire que ils sont suffisamment grands pour pouvoir éventuellement faire barrage, faire front si elle dérapait. Mais c'est pas viable sur du long terme, c'est pas possible de rester comme ça.
Et ils sont comme ça depuis leur petite jeunesse. Le petit doit avoir 3 ans quand elle a fait sa grosse crise et qu'elle nous a dit « ce ne sont pas mes enfants, je n'en veux pas ». Donc, il était encore très petit. Donc, aujourd'hui, il en a 15. Vous voyez, depuis combien de temps ils vivent comme ça?
Ouais. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que dans pas très longtemps, ils vont s'envoler. Ils vont quitter le nid. Et là, ça va se passer comment ?
Bah, c'est aussi ce que je me dis. Et c'est pour ça que je l'ai persuadé de venir vivre vers chez moi. Parce que eux, je pense qu'ils vont avoir aussi du mal à quitter le nid en sachant leur maman comme ça. Parce qu'ils sont très solidaires. Ils font vraiment, comment dire ça ? Ils s'en occupent, ils la réconfortent, ils l'amassent.
C'est gentil.
Vraiment,
ça.
Je suis admirative. Chouette, hein, ouais. Ils lui font les ongles. Mais vraiment, ils la protègent, en fait. Moi, quand je leur demande si ça va, j'essaye de leur expliquer que ce n'est pas pour faire, comment dire, hospitaliser votre maman, pardon. C'est pour savoir si vous avez besoin d'aide, et si vous voulez parler, si vous avez besoin de vous confier, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais tout de suite, non, tout va bien, on gère, on a l'habitude. Enfin, on sent qu'ils la protègent.
Mais vous avez raison, ça peut effectivement les empêcher de prendre leur envol, parce qu'ils vont se culpabiliser en se disant on ne peut pas la laisser, donc on ne va pas s'autoriser à vivre notre vie à nous tant que ça ne va pas. Et ça, ce n'est pas normal non plus.
Voilà.
Maintenant, la question, c'est est-ce que vous aurez la force encore et encore de vous occuper d'elle si elle se rapproche ?
Ben voilà, je fais tout ça. Alors, quand elle vient chez moi, c'est très difficile. Ça se termine toujours un peu dans des disputes parce que c'est très difficile parce que je supporte pas son comportement, qu'elle se réveille pas ou qu'elle fasse pas les choses correctes. Enfin, c'est vrai que je lui fais des remarques parce que je voudrais bien qu'elle fasse les choses correctement, quoi. Mais là, si elle vient, elle habite chez elle, elle sera pas sous mon toit.
Puis le souci, c'est que correctement vu par vous, ça n'est pas correctement vu par elle.
Je sais.
Vous ne parlez pas la même langue sur ce terrain-là, forcément.
Je suis d'accord. Et c'est là où c'est très difficile.
Mais c'est là où vous avez raison. Effectivement, chacun chez soi, ça peut être aussi un équilibre moins difficile, on va dire, à établir. C'est-à-dire être là pour elle, mais pas la porter à bout de bras en permanence. Et chez elle. Donc si c'est la pagaille et si ce n'est pas propre, ça la regarde, ce n'est pas vous.
Voilà. Et les enfants pourraient, à ce moment-là, compter sur nous, enfin sur moi et ma fille qui habite pas très loin, au cas où il faudrait l'hospitaliser. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que s'il faut l'hospitaliser, c'est, on m'a dit, à peu près un mois pour la cure. Mm-hmm. Mais les enfants seraient tout seuls.
Ils sont seuls, oui, oui.
Alors ça, c'est encore un autre problème qui me tourne dans la tête. Et je me dis, comment je gère ça ?
Enfin, en même temps, est-ce que vraiment ils ne peuvent pas rester un mois seuls, 17 et 15 ans ? Avec vous en backup au téléphone et...
C'est pas... Ils n'ont tellement pas été habitués à s'occuper du linge et tout ça et tout que je... Oui, pourquoi pas, enfin, c'est toutes ces questions que je me pose, hein, en fait. Hein.
C'est pour ça que je me les pose avec vous pour mettre tout à plat et envisager tout ce qui peut être envisageable. Mais je pense que vous allez vers la bonne piste. Mais vous aussi, qui vous soutient, vous, Constance ? Qui s'occupe de vous, là, en ce moment ?
Ben là, personne. J'ai eu une période où j'en avais vraiment encore besoin, donc j'ai vu une psychologue pendant deux fois, parce que c'est la période où elle avait sa fille à la maison et que ça n'allait pas du tout, qu'elle m'appelait tout le temps et que j'ai dû même appeler 10 de chez moi la police pour intervenir parce qu'elle était violente avec sa mère. Et moi, ça me faisait tellement mal de devoir appeler la police pour ma petite fille que c'était devenu insupportable. Et là, j'ai eu besoin de soutien. Et en plus, non seulement appeler la police pour elle, mais en fait pour la faire sortir de chez elle. Donc, qu'elle se retrouve dans la rue, en fait. C'était trop dur.
Ouais.
C'est des épisodes terribles, quoi.
C'est très injuste, la maladie, quand on est maman, en plus. Parce qu'on se sent... On sait qu'on fait tout ce qu'on peut et ça suffit jamais.
Et oui, et alors après, on ne sait pas ce qu'il y aura d'autre. Il y a toujours quelque chose d'autre qui revient après. Ça ne s'arrête jamais.
Ouais.
Et c'est là où on se dit, là, je crois de devoir mettre genou à terre. Là, je pense que c'est la dernière fois, je ne tiendrai plus.
Oui, c'est vraiment pour ça qu'il faut que vous arriviez à contacter ce monsieur en priorité, vraiment. Et puis, les enfants, je crois que vous avez bien compris comment ils fonctionnent. Il ne faudrait pas qu'ils aient peur de vous. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que vous êtes contre leur mère.
Alors, à un moment donné, je pense que, parce qu'elle se raisonne à sa façon... comment dire ça ? Elle parle de moi un peu comme si j'étais son ennemi.
Voilà,
à ses enfants,
c'est ça, c'est
fois.
Ça. Voilà, c'est ça que je crains un petit peu.
Voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils font la part des choses parce que le plus grand m'a envoyé un message magnifique pour mon anniversaire en me disant que j'étais toujours là, que je ne me plaignais jamais, etc. Et donc, je pense qu'à 18 ans, il a compris. Et le petit, il m'a appelé cette nuit. Donc, oui, il a eu besoin de moi pour le rassurer. Donc, ça contrebalance tout ce qu'elle peut dire malgré tout. Il voit quand même bien que le secours, c'est là qu'il est, en fait.
C'est chez vous. Et je suis épatée quand même par ces deux gamins. Avec tout ce qu'ils ont vécu, je les trouve extrêmement ouverts et profondément gentils.
Je n'arrête pas de leur dire qu'ils sont extraordinaires. Il ne faudrait pas essayer de sortir leur maman pour l'hospitaliser. On dirait qu'ils sont des gardes du corps, en fait. On la protège, mais quand je les vois lui faire les ongles, la câliner, lui faire des bisous, ils s'en occupent. En fait, ils font, on m'a dit, de la parentalité.
Et oui, malheureusement, ce n'est pas leur rôle, mais ils n'ont pas le choix.
Parce qu'ils veulent garder leur maman. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi peur qu'elles soient hospitalisées. Parce que, en fait, du fait que leurs deux sœurs ont été aussi placées, ça les a marquées. Et je pense qu'ils ont aussi cette peur, quelque part, d'être séparés de leur famille, qu'on leur enlève encore des membres de la famille. En fait, je pense qu'il y a cette espèce de peur chez eux. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous ensemble, en fait. Voilà, je ressens ça comme ça, en fait. Faites tout pour nous laisser ensemble, ne pas nous séparer à nouveau. Donc, je fais tout pour ne pas risquer de la faire hospitaliser. Mais en même temps, est-ce que c'est la bonne décision? C'est ce que je me dis, quelquefois.
Vous marchez sur des œufs, parce qu'effectivement, l'équilibre est précaire, mais l'équilibre est encore là pour eux, en tout cas. C'est ce qu'eux voient. Et je pense que vous avez raison. Ils doivent se dire, effectivement, que tout plutôt qu'une séparation.
C'est ça.
Mais la limite...
Surtout comme ils la câlinent.
La limite est quand même très, très fragile avec le danger d'un comportement excessif, quoi.
C'est ce qui me fait peur. Parce qu'en même temps, ça les déséquilibre. Ils n'arrivent pas à trouver leur équilibre parce qu'ils sont toujours inquiets. La dernière fois que je suis partie, c'était au mois d'octobre. Son fils était content que je vienne parce qu'il commençait les cours. Et il était inquiet de s'en aller le matin et de la laisser seule. Donc, je suis allée, j'ai fait 15 jours chez elle. Et du coup, elle est repartie. J'ai repris un peu la sortir, la faire marcher, etc. Donc, elle était repartie. Mais en fait, il faut sans arrêt. Mais moi, comme je dis, je ne suis pas éternelle. J'aurais aimé, parce que là, je vais avoir 70 ans, j'aurais aimé qu'elle trouve son équilibre. Parce que à un moment donné, moi, je suis aussi fatiguée.
Mais bien sûr. Je pense à autre chose, Constance. On a évoqué tout à l'heure ce monsieur qui est le directeur du CMP. Et vous avez évoqué aussi un médecin généraliste.
Oui.
Est-ce que lui, vous ne pourriez pas lui téléphoner pour lui parler? Uniquement du problème de médicaments, de traitement, lui demandant conseil.
Je peux essayer, mais enfin, quand elle m'en parle, il est toujours très pressé. Quand elle y va, elle ne peut pas parler de deux choses en même temps parce qu'il reçoit beaucoup trop de monde. Je sens pas, mais bon, je n'ai jamais essayé de l'appeler. Hein.
Je sais que c'est...
Je ne sens pas vraiment. Elle n'arrive pas à discuter avec lui de certaines choses, donc je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est pris aussi pressé par le...
C'est dramatique, j'entends ça partout, mais non, c'est vrai que les médecins sont surchargés, mais qui ne tentent rien à rien.
Oui, c'est vrai.
Demandez un rendez-vous, je ne sais pas s'il passe par une secrétaire, demandez peut-être un rendez-vous téléphonique. Dites-lui que vous allez être très... Non pas pour parler de tout ça, mais parler simplement de ce qui se passe avec l'arrêt du traitement et comment faire pour qu'elle puisse être... Pour être sûre qu'elle va vraiment aller dans ce centre, qu'elle va se prendre en charge et qu'elle comprenne à quel point ça peut être dangereux d'arrêter un traitement comme ça, n'importe comment.
Oui, parce que moi, je ne peux pas m'en aller comme ça toutes les semaines, prendre le train, et d'autant plus qu'il n'y a pas d'endroit chez elle vraiment pour m'installer. Donc, je suis très mal quand j'y vais. Je ne peux pas rester longtemps. Je ne peux pas non plus, je veux dire, c'est trop compliqué pour moi de m'en aller comme ça de chez moi sans arrêt pour venir... à son secours, en fait, régulièrement. Quoi. Et ma vie est complètement déséquilibrée à cause de ça.
Est-ce qu'elle n'aurait pas droit à des aides sociales sous forme de visite, par exemple, ou d'aide ménagère ou de soutien?
Alors, j'ai essayé ça aussi au mois d'octobre quand j'y suis allée. Oui. Donc, je suis allée à la MDPH faire une demande et on m'a dit qu'il fallait s'adresser à l'assistante sociale du CMP qui la suit. Mmh. Et donc, l'assistante sociale du CMP qui la suit m'a dit qu'elle allait faire une demande au niveau de la mairie.
Oui, très bien.
Mais ça remonte déjà à 3 mois maintenant.
Et vous pourriez peut-être un peu les secouer de ce côté-là aussi? Parce que ça pourrait être rassurant même pour les enfants de savoir qu'il y a quelqu'un qui a un rythme régulier, peut-être tous les jours, tous les deux jours, ou au moins une fois par semaine, passe, vous voyez.
Parce qu'elle doit être suivie, enfin, son dossier est passé au SAMHSA. J'ai réussi à avoir une, comment dire, un dossier par le SAMHSA qui a été accepté. Son dossier est passé en commission. Elle doit être prise en charge par le SAMHSA.
Ah, donc déjà
sauf
ça.
Qu'il y a 5 personnes en liste d'attente devant elle.
Oui, donc ils
vont... j'ai relancé la semaine dernière, mais ça n'a pas bougé, d'autant plus qu'avec le Covid, les personnes fragiles sont encore plus en demande. Donc forcément, ça n'avance pas vite. Et donc, ça peut prendre encore, je ne sais pas, peut-être 2 ans.
Ah là, oui, vous n'avez pas de délai pour l'instant.
Non.
Bon, en tout cas, vous avez fait les bonnes démarches. Vous êtes, c'est sur les rails, même si les rails sont très longues.
Ouais. Ben oui, mais bon, ça peut, ça, je ne sais pas si un jour elle arrivera à avoir une place. J'ai l'impression qu'avec la conjoncture actuelle, au contraire, il y a plus de demandes que de personnes qui sortent, en fait.
Donc, il n'y a personne dans votre famille qui pourrait être un peu un relais, une tante, un oncle, je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait
si,
un petit
j'ai
peu...
J'ai ma sœur qui va régulièrement, qui l'emmène faire ses courses.
Ah ben vous voyez déjà.
Oui. Voilà, qui l'emmène faire ses courses, mais elle est très maligne parce qu'elle cache beaucoup en fait. Ma sœur ne la voit jamais dans cet état-là en fait. Il y a peut-être 3 semaines, j'étais aussi en panique et j'ai demandé à ma sœur d'y aller. Elle y est allée, elle m'a dit oh non, elle va très bien en fait quand elle a su qu'elle venait. Enfin, moi j'arrive pas à comprendre en fait. Quelquefois je comprends pas comment elle arrive à être aussi, je sais pas. Elle arrive à cacher les choses, elle arrive à. Et quand les gens l'ont au téléphone, elle a l'air très bien parce qu'en fait quand elle téléphone, elle téléphone les moments où elle est debout, où elle est bien. Et moi je j'ai tout le reste.
Oui, c'est curieux parce que quand on est en crise comme ça, on ne peut pas le cacher. Donc, ça paraît bizarre qu'elle arrive à mentir sur son état.
Ben écoutez, ma sœur l'a emmenée faire des courses. Ça s'est bien passé. Et cette nuit, ben voilà, elle était dans cet état-là.
Ouais. Elle n'a pas de soucis avec ses voisins ?
Non.
Non,
elle ne fréquente personne, en fait. Quand j'y vais, moi, j'ai l'occasion de lui dire que j'ai vu telle et telle personne. Mais elle vit, en fait, elle est transparente. Elle ne connaît personne, elle passe devant les affiches, elle ne voit rien. Il y a des choses qui pourraient l'aider. Moi, c'est là où on ne s'entend pas, parce que je vois des choses qui m'interpellent, où elle pourrait trouver de l'aide, elle pourrait tirer le fil pour s'en sortir. Elle ne voit rien.
Mais elle ne voit pas ou elle ne veut pas ?
Je crois qu'elle ne voit. Elle ne voit rien. Et c'est comme si, en fait, elle ne voit rien, mais je pense que c'est aussi l'effet des médicaments, parce que j'ai eu aussi peur parfois qu'elle se fasse écraser, parce que même quand elle traverse les rues, elle marche d'une telle façon, j'ai l'impression qu'elle ne voit même pas autour d'elle. C'est là, je me dis qu'elle a des périodes, autant maintenant elle ne veut plus les médicaments, et elle a eu des périodes où quand ça n'allait pas, elle en prenait plus pour mieux dormir. Sauf que du coup, quand elle marche, on dirait un robot.
Un zombie, ben oui, mais dans les deux sens, c'est dangereux. L'excès est dangereux et le fait d'en prendre moins ou plus subitement, c'est dangereux aussi.
Voilà, donc il y a des jours où elle passe son temps au lit, elle ne se lève pas du tout.
Oui, c'est ça, elle passe d'un extrême à l'autre, évidemment. Ouais. Si on réfléchit par priorité, il me semble, là, après tout ce que vous m'avez dit, que la première des priorités, c'est qu'elle arrive vraiment à aller dans ce centre où vous avez pris rendez-vous pour elle.
Oui.
Elle vous a dit qu'elle allait y aller.
Ah oui, oui, ça fait 2 fois qu'elle me le dit. Et là, c'est pareil, tout chez elle est compliqué parce que son téléphone, il y a toujours des problèmes dedans. En fait, elle n'arrive plus à voir ses mails ou elle a certains mails et pas d'autres. Enfin, en fait, il faut l'aider à tout gérer. Je lui ai envoyé par SMS, par WhatsApp, par mail les coordonnées de la clinique. Et ben, elle n'arrivait encore pas à les avoir. Donc, au bout de 3 fois, je l'ai rappelé, je lui ai dicté. C'est comme ça qu'elle a appelé. Vous voyez, tout est à faire. Je veux dire, il faut la suivre, lui tenir la main pour faire les choses. Donc là, elle a appelé et elle a trouvé ça pas mal. Et elle a dit qu'elle irait. Elle doit y aller cette semaine.
Parce que je me demande si avec elle, il ne faudrait pas fonctionner avec la carotte. C'est-à-dire lui faire comprendre, et à ses enfants aussi, à quel point ça peut être une solution pour qu'elle ne soit pas hospitalisée, justement, parce qu'elle ferait les choses de manière intelligente, accompagnée. Que ça pourrait aller dans son idée, dans son souhait de baisser son niveau de médicaments, mais pas n'importe comment. Aller dans le sens de ce qu'elle souhaite, mais cadré, vous voyez.
Oui, mais c'est pour ça qu'elle veut, qu'elle est d'accord pour y aller. Mais maintenant, il faut que je la harcèle régulièrement pour être sûre. Bah parce qu'elle ne peut pas non plus tout. Comme elle ne sort pas du tout, en fait, quand elle marche, quelquefois, elle est essoufflée, elle manque de s'évanouir, de
Oui,
faire des
à
malaises.
force de rester en boucle, oui, à
Ah
tourner en
oui,
rond.
parce que là, elle est sortie avec ma sœur hier, l'en faire des courses, mais je ne sais pas depuis combien de temps elle n'avait pas mis les pieds dehors. Donc, en fait, il faut quelquefois que je lui commande de chez moi un taxi pour l'emmener là où elle doit aller. Par exemple, quand elle devait aller au tribunal, de chez moi, je commande un taxi qui la prend en bas de chez elle pour l'emmener au tribunal.
Et cette clinique est loin de chez elle?
Non, elle est elle est deux villes à côté, en fait. Mais pareil, je pense que si elle prend un taxi, elle en a pour un quart d'heure, quoi, y aller. Après, par les transports, alors les transports, elle se perd. À pied, elle se perd. C'est pour ça que je pense qu'elle ne fait pas exprès, elle ne voit vraiment pas les choses. Vous la lâchez dans la rue, elle est perdue.
Elle n'est pas
Et
autonome
ses
du tout,
enfants,
alors, oui.
non, c'est son fils en particulier qui est adorable, parce qu'il y a pas longtemps, ils habitent là depuis 3 ans. Il va faire tous les trajets avant pour repérer et l'emmener après.
Ils sont
Pour tout.
vraiment formidables, ces enfants-là.
Ah, ils sont extra. Mais je leur dis tout le temps, hein. Je leur dis,
Ouais,
mais vous êtes
vraiment.
vraiment des enfants extraordinaires. Ce sont les parents de leur maman.
Mais oui, j'entends ça. Mais que c'est compliqué comme situation, parce que la logique voudrait qu'elle soit hospitalisée, votre fille. Elle n'est pas autonome,
Oui, mais
elle
ce serait
peut
leur
être.
faire du
Et ce
mal,
serait leur
oui.
faire du mal à eux, voilà. Donc c'est humainement, c'est pas une solution. Médicalement, évidemment, c'est la seule solution qui apparaît, parce qu'elle a vraiment l'air dépendante et incapable de prendre soin d'elle. Mais en même temps, ce serait faire tellement de mal aux enfants et à
C'est
elle.
ça.
Ouais, je comprends le dilemme.
Donc, l'idéal, c'est de maintenir les choses telles quelles, à distance, répondre à tous les besoins à la demande, trouver des organismes à droite à gauche qui compensent, que ce soit le ménage,
Voilà, j'allais vous dire, trouver
le SAMSA.
des relais locaux
Voilà.
pour que vous puissiez un peu vous
Voilà.
souffler. Des
Voilà. Mais le
infirmières,
SAMSA, ce
peut-être.
serait extraordinaire, voilà, parce qu'il mettrait en place, il s'est déjà prévu un plan infirmière, psychologue, etc., qui viendrait régulièrement. J'étais impatiente que ça se fasse, mais ça fait un an que c'est en attente.
Ouais, c'est interminable.
Et là, depuis, ben, elle a décidé qu'elle voulait arrêter les médicaments. Mais sans me dire, en fait, quand elle m'a dit, je crois qu'on ne se parlera plus jamais, elle avait déjà commencé à arrêter les médicaments. Donc je pense que là, c'était un peu pour cacher, pour que je ne sache pas.
Oui, puisqu'elle, visiblement, elle manipule un petit peu dans sa façon de faire.
Elle est très manipulatrice parce que du coup, comme elle ne voulait pas que je sache, elle est restée sans m'appeler pendant un mois, alors qu'elle a des périodes où elle m'appelait 10 fois par jour, et quand je disais que c'était plus possible, elle me disait, mais tu n'as pas le droit, tu sais bien que j'ai besoin de toi, tu n'as pas le droit de ne pas vouloir que je t'appelle.
Oui. Oui, mais bon, une fois de plus, elle est déséquilibrée. Donc, on ne peut pas chercher d'équilibre de rationnel, de comportement
Non.
rationnel dans un cerveau qui est pas bien comme le sien, quoi, qui est malheureusement en déséquilibre permanent. Donc, effectivement, je pense qu'il faut procéder par étapes et par. Comment on dit? Par le mot m'échappe pour l'instant. Mais vraiment, par. Oui, on va dire par étapes. C'est-à-dire que la première étape, la plus importante, c'est vraiment qu'elle comprenne qu'il faut aller dans cette clinique que vous lui avez trouvée.
Alors, en parlant de clinique, je voulais vous demander
Échéance.
aussi,
Le
parce
mot,
que
pardon, le
vous.
mot que je cherchais, c'était échéance. Il faut vous mettre des échéances, à court, à moyen terme et à long terme.
Oui, peut-être que ça m'aiderait, ça, oui,
Je
c'est une
pense que
bonne
c'est ça,
idée, parce que
ça
je suis
vous.
un peu
Bah,
perdue, là,
voilà.
maintenant. Je
C'est.
vous dis, j'ai l'impression d'être télécommandée à distance, et qu'aujourd'hui, on me demande si, demain, c'est ça, je suis là,
C'est pour ça que
et
je
je
voulais,
réponds.
ouais, c'est pour ça que je voulais vous parler d'échéance et de baliser la route, si vous voulez. De créer une
Oui,
première
je
échéance
comprends.
avec tout ce que vous avez déjà fait pour trouver de l'aide en local. Passer un coup de fil à ce médecin, on ne sait jamais s'il a des conseils à vous donner. Même s'il vous envoie promener, ben au moins vous aurez essayé.
D'accord, oui, d'accord.
Effectivement, rassurer les enfants sur le fait que vous n'allez pas être un obstacle à leur vie et que vous n'êtes pas là pour les séparer, au contraire. Et
Oui, ça,
puis.
j'aurais bien fait comprendre ça, oui.
Et puis, vous avez déjà mis sur un moyen terme en place cette demande d'appartement plus proche de chez vous. Donc ça, c'est fait aussi. Tout ça, c'est lancé.
Et puis, je voudrais demander si parmi les auditeurs, il y a des personnes qui connaissent un bon centre. Parce que là, en fait, je ne connais pas encore ce centre. C'est parce qu'il est proche, mais je ne sais pas si c'est un bon centre ou pas. Donc, et si ça ne nous convenait pas, est-ce que quelqu'un, enfin, des auditeurs, connaissent un bon centre de détoxication médicamenteuse?
Dans quelle ville est-elle?
Alors, elle est dans le Val-de-Marne, pas loin de Créteil.
D'accord. Bon, en région parisienne, il y a quand même beaucoup de choses.
Oui, mais lesquelles sont bien et pas bien? Parce que moi, je suis à distance. Oui. Et choisir comme ça, si des personnes ont eu affaire déjà à un centre et peuvent me dire, m'aiguiller pour ne pas perdre trop de temps. Parce que là, je lui ai dit d'y aller dans un premier temps et qu'après, moi, je viendrai. Mais je ne peux pas faire ça. Je veux dire, c'est difficile quoi, de se déplacer à chaque fois pour aller voir un nouveau centre et puis on perd du temps.
Donc, bien sûr, donc l'appel est lancé, Constance. Si on a des gens qui nous écoutent et qui ont des bons plans, qui savent un petit peu où ils pourraient vous orienter, on vous transmettra les messages à ce moment-là.
D'accord, je
vais ça serait bien. Déjà effectivement un coup de pouce. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour vous aider?
Ah bah déjà, d'avoir pu parler, ça m'aide, parce que j'ose même pas parler à mes deux autres enfants, parce que j'en ai une qui est infirmière, qui est débordée avec le problème du Covid, elle rentre, elle est un zombie tellement elle est fatiguée. Donc, je ne veux pas en rajouter. J'en ai un autre qui vit au Canada. Donc, il n'arrête pas de me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il est à distance et on a, je ne sais plus combien d'heures de décalage. Moi, quand je me réveille, lui, il va se coucher. C'est difficile de lui demander de se réveiller la nuit pour appeler, pour prendre le relais, etc. Et quand on est à distance, on grossit les choses parce qu'on est une famille tellement fusionnelle. Que quand quelque chose touche l'un, ben l'autre, il en est malade. Donc, je ne veux pas non plus qu'à distance, il se rende malade et, alors qu'il ne peut pas faire grand-chose. Et ma fille, ici, ben, elle finit, elle fait des journées, elle commence à 6h30, elle finit à 19h30. Elle a aussi un enfant.
Elle a sa charge
pas quel
déjà,
moment.
Oui,
et puis elle rentre, elle est épuisée, avec tous les cas de Covid, etc. Elle est épuisée, donc je ne vois pas ce qu'elle peut faire de plus. Donc, de temps en temps, quand elle est de repos, bon, ben, je lui parle. Mais là, quand elle n'est pas de repos, je ne veux pas attendre à 20h qu'elle soit rentrée pour l'appeler et lui raconter ça. Elle ne peut rien faire. Donc, du coup, ben, d'avoir pu parler déjà aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir vidé un peu l'abcès. En fait, ça me fait énormément de bien déjà parce que je tournais en rond dans ma tête. Je me dis, mais... Surtout depuis que j'ai eu mon petit-fils, il m'appelle au secours, donc je ne peux pas ne pas répondre. Qu'est-ce que je peux faire?
Alors Constance, vous savez ce que j'ai envie de faire? Parce que l'émission va se terminer. Si vous le désirez, si vous acceptez, j'aimerais vous faire un petit cadeau. Est-ce que vous avez une adresse mail?
Oui.
Alors si vous en avez envie, je vous enverrai une séance que j'ai enregistrée pour éloigner le stress, pour se calmer, avec ma voix.
Merci. Hein,
je vais vous envoyer ça. Ce n'est pas grand-chose, mais si au moins ça peut vous accompagner le soir pour vous apaiser un petit peu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que
Je m'endors avec la radio.
Vous n'allez pas raccrocher. Je vais vous repasser Cindy ou Nicolas. Vous leur laisserez votre mail. Et je vous envoie avant demain soir une séance à écouter comme ça chez vous pour vous sentir bien. D'accord?
Oui. Votre voix est apaisante déjà. Mais vraiment, merci beaucoup.
Constance, vous êtes formidable. Merci. Vraiment, vous êtes une maman comme beaucoup rêveraient d'avoir.
Ah, ben, je ne sais pas. Mais bon, j'ai beau me battre. Bon, je ne gagne quand même pas la bataille pour l'instant. Mais bon. Je continue, c'est pas grave.
Vous maintenez le navire à flot, en tout cas, ça c'est sûr.
Merci beaucoup.
Ne raccrochez pas, Constance. Ne raccrochez pas. On prend votre mail et on reste en contact.
Merci.
Merci. Et notre émission se termine en douceur. Merci à tous d'avoir été là ce soir d'un côté ou de l'autre du poste. On se retrouve demain soir dimanche à partir de 23h pour une nouvelle Libre Antenne. Et d'ici là, je vous quitte avec la phrase du jour. La générosité est un don qui appartient à l'âme. Elle ne dépend pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. Passez une très belle nuit et à demain. 1h du matin sur Europe 1, c'est le début des programmes de la nuit.